Et nous continuons notre thème des attributs de Dieu à partir du chant « Nul n'est comme toi ». Et nous abordons la seconde strophe. Et dans cette seconde strophe, il est dit « Nul n'est comme toi, un père et un ami ». Nous allons parler du Père aujourd'hui, de Dieu qu'on appelle Père. Nul n'est comme toi un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Voilà, que nous puissions être à l'écoute de sa sainte parole maintenant. Voilà, chantez cette strophe-là, si vous voulez bien. Alors, je voudrais qu'on lise deux textes. Alors, si on parle de Dieu comme Père, le premier texte qui vient à l'esprit, c'est Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 15, où Jésus parle de la prière dans son sermon sur la montagne et il donne un exemple de prière, un modèle de prière. Matthieu 6, 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les lieux publics, au coin des rues, pour se montrer aux hommes, à leur père. Au contraire, je vous dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret, et ton père qui est dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et lorsque vous priez, vous devez prier en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Et donc, aussi en Romains, chapitre 8, c'est difficile de ne pas le lire également, et je le rappelle pour mémoire, Romains 8, 12 à 17. Paul, donc, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et nous rappelle tous les privilèges que nous avons en tant que chrétiens, celui de nous appeler, d'appeler Dieu Père. Ainsi donc, nous sommes débiteurs, mais non pas de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. Car nous, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être lui, avec lui aussi glorifiés. Seigneur, ouvre pour nous le Saint-Livre. Amen. Alors, tout d'abord, il est bien dit que ces deux textes nous parlent de Dieu comme Père. Et c'est cela que nous voulons essayer de méditer ce matin. Nous, Père, c'est le mot le plus radical de la prière. On ne s'en rend pas toujours compte. Avant de connaître Dieu, nous ne pouvions pas dire que Dieu est notre Père, et nous ne pouvions pas dire à Dieu notre Père, même si nous étions religieux. Hein, les religieux ne s'adressent pas à Dieu comme leur Père, il leur semble tellement loin. Hein. Et naturellement, nous ne pouvions pas dire à Dieu Père. Hein. Par nous-mêmes, nous nous sentions éloignés de lui. Hein. Nous avions peur de lui. Même nous avions un contentieux avec lui. Nous pouvions le haïr même. Et par nous-mêmes, nous ne pouvions pas mettre notre confiance dans notre Père. Nous cherchions d'autres sécurités. Et c'est là les fruits de la nature humaine, pécheresse dans nos cœurs. Et Jésus seul peut nous permettre, peut changer notre cœur en nous réconciliant avec Dieu, en nous donnant une communion réelle avec lui. Jésus seul a pu nous permettre de dire Père. Et nous avons pu alors l'affirmer avec une totale confiance, la totale confiance de la foi, Père. Alors, c'est bon de rappeler cette bonne nouvelle. Nous sommes devenus proches, proches de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes devenus les enfants du Père. Et Père veut dire plusieurs choses pour le chrétien. Tout d'abord, Père veut dire qu'il donne la vie. Il donne la vie. Alors, c'est les parents qui donnent la vie. C'est bon de rappeler que c'est un des sens du mot Père dans toute la Bible. Et donc, pour deux raisons. Parce qu'il y a deux créations. Dieu nous a donné la vie et il est notre Père pour deux raisons. À la fois dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Eh bien, il nous a donné d'abord la vie physique, c'est ce que l'Ancien Testament met en valeur. Il nous a donné un corps, des mains et tout ce qui fait partie de notre vie. Il nous a donné le souffle de vie. Et donc, après nous avoir donné la vie, il la maintient sans cesse. Et notre vie, donc, est totalement dérivée de Dieu et dépendante de lui. Dieu est notre Père dans ce sens-là. Déjà. Et puis, l'Évangile nous rappelle que Dieu nous a donné une seconde fois la vie par l'Évangile. Jacques 1, 18 nous dit que par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. Il a mis la vie en nous pour que nous soyons de nouvelles créatures et pour que nous soyons une nouvelle création, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Donc, il nous a redonné la vie en Jésus-Christ. Alors, Père veut dire aussi, comme on l'a dit, que nous avons une relation intime avec Dieu. Et l'apôtre dit bien, en Romains 8, 15, on l'a lu, que nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous crions « Abba, Père », et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, « Abba, Père », c'est un cri personnel, c'est un cri intime, « Cher Père ». Et l'araméen Abba implique une relation donc personnelle. Dieu n'est pas simplement Père dans le sens général de créateur, mais il est mon Père, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a adopté parce qu'il m'aime et je suis sûr de son amour. Voilà tout ce qu'il y a dans ce mot. Et l'affirmation donc est on ne peut plus claire. Nous sommes, dit l'apôtre Paul, nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes par adoption. Alors le seul fils naturel, on va dire, de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ. Nous sommes ses fils et ses filles adoptifs. Adoptés par le même Père. Nous faisons partie de la même famille. La famille de Dieu. Et cela change donc totalement notre relation avec Dieu, notre vie spirituelle. Alors, il faut toujours se rappeler que Jésus, dans l'Évangile, appelle Père, son Père, plusieurs fois. Abba, Père. Père, et surtout, quand on approche de Pâques, on pense à Marc 14, verset 36, où Jésus lui-même a dit Abba, Père. Il prie ainsi, Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne-moi cette coupe, cependant qu'il m'arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors à y réfléchir, c'est totalement inouï. Nous pouvons appeler Dieu exactement comme Jésus l'appelait, Père. Et donc c'est là le privilège merveilleux. Le fruit de la réconciliation avec Dieu, c'est de pouvoir entrer dans la communion que Jésus avait avec son Père, en tant que fils, nous, adoptif, enfant adoptif de Dieu. Père veut dire aussi qu'il me connaît. Et le texte qu'on a lu en Matthieu 6 dit bien que Dieu sait les choses, il voit les choses. Il connaît, il me connaît à fond. Donc rien en moi n'est secret, n'est un secret pour lui. Je n'ai pas besoin de le renseigner sur l'état du monde, non, mais même sur l'état de mes besoins. Et il voit mon cœur, il voit mes désirs. Même si je suis dans un lieu secret où personne ne me voit, bien enfermé, avec quatre murs, il voit. Il voit mon cœur, il voit mes désirs, il voit ce qui est dit, il voit ce qui n'est pas dit aussi derrière les mots. Il voit mes souffrances, mes espérances, il voit mes joies, il voit aussi mes luttes, mes combats, comme on l'a dit tout à l'heure dans la prière. Alors on va se dire, mais si le Père sait tout, s'il voit tout, pourquoi prier? Pourquoi formuler des choses? Eh bien, c'est là qu'on voit qu'il faut changer notre regard sur la prière. Il faut voir la prière autrement. Et notre regard a besoin d'être changé, d'être lavé régulièrement à ce propos. Il faut voir la prière comme un acte de confiance d'un enfant qui se confie à son Père. Et donc la prière, c'est se confier à Dieu avec tout ce que nous avons aussi sur notre cœur, dans notre cœur, avec nos désirs, nos souffrances, nos espérances, nos joies, nos combats, etc. Prier, c'est parler avec mon Père céleste. Rien de plus, mais aussi rien de moins. Alors, là aussi, on peut ajouter que, on l'a dit la semaine passée, que Père veut dire aussi celui qui nous éduque. Alors, vous souvenez, on avait lu en partie brièvement ce texte d'Hébreux 12, 9 à 10. Je le lis dans son complet aujourd'hui. D'ailleurs, nous avions des parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. Devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc si nos parents terrestres, étaient absents, ils pouvaient être absents, beaucoup de parents sont absents, s'ils étaient distants, s'ils étaient injustes, s'ils étaient même cruels parfois, nous savons que tout cela a existé et existe encore aujourd'hui. Eh bien, le Père Céleste est tout différent. Le Père Céleste est présent, avec un juste rapport. Il est juste et aimant. Et donc, il est aussi celui qui fixe les règles. Et donc, nous nous approchons de Dieu avec un amour, et nous avons pour Dieu un amour filial, un respect filial aussi, qui nous amène à lui faire confiance pour lui obéir, pour écouter ce qu'il dit et pour lui obéir dans la confiance. Mais parfois, nous savons que nous nous comportons bien souvent comme des enfants, dans le mauvais sens du terme cette fois. Parfois, l'éducation de notre Père nous pèse. Mais serait-il préférable d'être traité comme des enfants illégitimes, comme des choses, comme des rien du tout? Protestons-nous parce que Dieu est plus ambitieux pour nous que nous-mêmes? Et c'est bien ça. Dieu est plus ambitieux pour nous que nous ne le sommes nous-mêmes. Et il veut pour nous la sainteté. Voilà le grand projet. Le grand projet de transformation qu'il met en œuvre dans nos vies. Et l'Esprit Saint qui accompagne cette œuvre est l'Esprit qui est saint toujours et qui veut en nous, qui poursuit son œuvre en nous, c'est son œuvre de sainteté. C'est sa première œuvre. Et puis on peut dire aussi que Dieu donne son amour. Le Père donne son amour. Voilà ce qu'il y a derrière ce mot. Et déjà, donc, Dieu se nomme ainsi pour que on s'approche de lui, on ne voit en lui que douceur et bonté, et qu'on s'approche de lui dans la confiance. Il veut qu'on ait ce titre à la bouche et dans le cœur, pour que cela ôte tout sujet de doute, tout sujet de perplexité quand on s'approche de lui. Il veut qu'on ait ce titre à la bouche et dans le cœur pour nous donner de la hardiesse, pour venir à lui à toute occasion, dans les bons comme dans les mauvais jours, pour que rien ne retienne notre abandon entre ses mains. Souvent, nous sommes arrêtés par nos péchés. Nous disons, oh, je vais m'approcher de Dieu quand je me sentirai bien, quand je serai juste, parfait. Non, on peut attendre longtemps et on peut se tromper lourdement. Nous n'avons jamais besoin de mérite pour nous approcher du Père. Il est devenu notre Père, mon Père, il n'est plus un étranger, il n'est plus notre juge. Et nous sommes toujours un peu comme des fils prodigues. Le fils prodigue qui a tout plaqué. Et lorsqu'il revient, eh bien, comme lui, nous n'avons aucun mérite. Nous ne pouvons compter que sur la bienveillance, l'amour bienveillant du Père. Et on voit dans la parabole du fils prodigue le Père, qui voit son fils de loin, encore de très très loin, il a des yeux très très perçants, et il court, il est dit, il court, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, voir le Père qui court vers lui, et qui l'accueille avant qu'il ait pu prononcer le premier centième de parole, et c'est cela que nous devons toujours avoir en tête, nous devons aller au Père, sans attendre, avec confiance, voyant ce Père qui court vers nous, pour nous prendre dans ses bras, et qui nous accueille franchement et sans délai. Alors les bonnes questions qu'on peut se poser déjà à ce moment de la méditation, c'est est-ce que Dieu est devenu notre Père en Jésus-Christ ? C'est une question qu'on peut poser à chacun. Et puis si nous pouvons répondre oui, si nous sommes chrétiens, si nous avons commencé à vivre ces choses, on peut aussi avouer que parfois il y a une perte de confiance. Le mot père devient quelque chose d'abstrait. On ne se confie pas, on ne s'abandonne pas, pour toutes sortes de raisons, mais surtout pour notre péché. Et ce matin, donc, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir la profondeur de cet amour du Père et pour nous amener à nous confier, nous abandonner et avoir une vie qui soit vraiment à la mesure de ce que Dieu révèle dans la Bible sur sa paternité. Alors les conséquences, j'en vois trois qui vont essayer de reprendre les textes que nous avons lus. Premièrement, puisque Dieu est notre Père, nous vivons pour lui faire plaisir à lui plutôt qu'à nos pères, c'est un jeu de mots, plutôt qu'à nos semblables. Et donc Jésus, l'évangéliste Matthieu, dans ce texte du sermon sur la montagne, montre bien du doigt la religion des pharisiens. Elle était basée sur les efforts humains. Elle n'apportait qu'une expérience limitée de Dieu. Et ils avaient transformé la vie spirituelle en spectacle à leur propre gloire et à destination des gens, des foules qui les voyaient. Ils priaient en public au coin des rues. Bon. Pour impressionner les passants et les passantes. Alors, on va dire, ouais, mais on sait bien que cette attitude est toujours et n'est jamais très loin de nous. On peut facilement prier des prières sophistiquées en public le dimanche matin ou à d'autres moments pour impressionner le reste de l'assemblée. Mais voilà, ça c'est pas toujours. On a reçu notre récompense, dirait Jésus parfois. Alors, Dieu voit ce qui est dans le cœur, de toute façon. Et Dieu déteste toute prétention. La prière n'est pas un spectacle de foire pour la foule. Et parfois, il nous arrivait à chacun de l'oublier. La prière n'est pas une façon de manipuler Dieu au moyen de longs discours verbeux. Et il nous est arrivé à tous, au moins une fois, de l'oublier. Et Jésus nous dit de fixer notre regard donc sur notre Père. Et quand nous prions pour notre culte personnel, eh bien, c'est bien d'avoir un endroit secret où nous pouvons fixer rendez-vous, où Dieu nous fixe rendez-vous. Et là, nous pouvons vraiment prier en secret pour lui. Non pas pour les autres, mais pour lui. Ce qui se passe là, et c'est entre lui et nous. Et c'est pour lui qu'on le fait. On ne le fait même pas pour nous, mais on le fait pour lui. Et pour un public composé d'un seul, lui. Et ça nous demande, bien sûr, de changer de regard, parce que l'être religieux qui est en nous essaye toujours de remonter à la surface. Et on a toujours besoin de renoncer à notre nature pécheresse dans ce domaine aussi. Et Jésus nous dit que si nous vivons de la sorte, nous allons recevoir des récompenses. Alors ça nous gêne parfois. Pourquoi Jésus parle de récompense? On ne fait pas ça pour les récompenses. Oui, mais nous sommes des êtres humains et Jésus sait qu'on a besoin d'être encouragé. Donc il ne dit pas ça pour qu'on fasse pour la récompense, mais il dit ça pour nous encourager. Et les récompenses de la prière sont innombrables. Alors, vous pensez à des choses, mais ce n'est pas ça que je vais dire. Les récompenses de la prière, par exemple, c'est qu'il nous accorde l'assurance. On l'a dit en Romains 8, chaque fois que nous prions, Dieu nous accorde l'assurance de notre filialité et de son amour envers nous. Il nous réaccorde cette assurance. Nous sommes renforcés là-dedans. Et puis, il porte sur nous son regard et sa paix. Il nous dispense la lumière de sa face. Ça, c'est une récompense merveilleuse. Il rafraîchit notre âme. Il rassasie notre faim. Il étanche notre soif. Nous savons que nous ne sommes plus orphelins parce que le Père nous a adoptés. Nous savons que nous ne sommes plus des enfants prodigues, mais il nous a pardonnés. Nous savons que nous ne sommes plus des étrangers ou des gens de passage sans attache, mais nous sommes rentrés dans la maison. Nous avons une maison. Nous avons un endroit où nous pouvons être protégés, gardés. Et voilà, toutes sortes de bienfaits liés à ces quelques mots que je viens de citer et qui nous rappellent l'importance de renforcer notre relation avec le Père. Alors une autre chose qu'on peut dire, la deuxième chose, c'est que puisque Dieu est notre Père, nous avons joyeusement accès à sa présence. Une des promesses les plus précieuses de la Bible est que les premiers mots de la prière devraient être « notre Père ». Nous sommes souvent tentés de rentrer dans la présence de Dieu en pleurnichant. Alors, avec le déballage de nos péchés, l'affirmation de notre inutilité, on va dire, mais c'est bien ça. Je ne sais pas. Nous pouvons, bien sûr, dans la vie chrétienne, il y a une place pour la confession des péchés. Mais ce n'est peut-être pas la première chose qui doit venir en tête. Nous pouvons même nous convaincre qu'il s'agit d'humilité. Mais Jésus nous corrige en nous disant que cette servilité, c'est peut-être parfois la servilité, ça déshonore Dieu. Cette démarche est peut-être appropriée, et elle est appropriée, pour notre première prière de repentance, quand on se tourne vers Dieu. Mais elle n'est peut-être pas appropriée pour la relation quotidienne avec notre Père. En tout cas, ça ne doit pas être ce qui vient en premier. Que penseriez-vous d'un homme dont vous voyez les enfants s'humilier devant lui tous les matins? Vous penseriez qu'il est le plus mauvais père qui soit, quelque part. Des fois, il y a des sentiments humains qui ne sont pas très clairs dans nos esprits. Et il faut se rappeler que nous aimons que nos enfants viennent à nous pour exprimer leur affection, d'une façon ou d'une autre. Et Dieu aime aussi cela. Il aime cela, qu'on vienne à lui pour exprimer notre affection. Et le reste ensuite suit naturellement. En tout cas, ceux qui ont vu, donc nous avons le privilège, puisque Dieu est notre Père, nous pouvons nous approcher joyeusement de sa présence. Ceux qui ont vu les séries anglaises, comme Downton Abbey ou d'autres, hein, savent que dans les anciens manoirs anglais, dans les demeures de maîtres, hein, il y avait une porte de devant pour les amis et une porte de derrière pour les serviteurs. Il y avait deux mondes. Et Jésus nous dit donc qu'avec notre Père Céleste, nous ne devons pas utiliser la porte de derrière pour nous approcher de lui. À partir de maintenant, et continuons dans cette optique, c'est la porte de devant que nous pouvons utiliser. Le tapis rouge, si on va dire. Nous pouvons joyeusement avoir accès à la présence du Père. Alors, puisque Dieu est notre Père, nous lui consacrons du temps aussi. Troisième conséquence. Une des vérités merveilleuses de l'Évangile est que Dieu nous consacre du temps, lui. Il a du temps pour nous, comme en principe les parents devraient en avoir pour leurs enfants, pour qu'ils s'éduquent, pour qu'ils progressent, qu'ils grandissent d'une façon saine et forte. Eh bien, voilà, c'est ça l'Évangile. Dieu a du temps pour nous, il consacre du temps pour nous. Et ce n'est pas nous donc qui condescendons à lui en accorder. Non, c'est Dieu qui nous consacre du temps. Il a du temps pour nous. Et donc, à cause de nos vies très préoccupées, très occupées aussi, nous avons du mal, pour la plupart d'entre nous, à trouver du temps pour prier. La Bible nous encourage à prier régulièrement, tout au long de la journée. Elle nous invite à prendre des temps réguliers avec notre Père dans un lieu défini, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, bien sûr, on peut grignoter des petites prières tout au long de la journée, suivant nos besoins, suivant nos états d'âme, et c'est très très bon tout ça. Mais c'est comme le grignotage, si on fait que grignoter, eh bien on va vite aller à l'hôpital, parce qu'on ne va pas pouvoir assumer nos journées et notre vie trépidante. On a besoin des fois de grignoter un peu, mais nous avons surtout besoin, comme disent tous les spécialistes, de plusieurs repas réguliers, pris à heure régulière. Eh bien, c'est pareil pour la prière, je le rappelle. Grignoter, oui, mais nous avons besoin de repas réguliers, de prendre notre temps pour vivre, et cela pour prendre, donc pour pouvoir vivre une croissance saine et forte dans le Seigneur. Alors, il est bon de rappeler peut-être, on lit souvent les évangiles où Jésus parle, où Jésus prie, et ça nous accuse. Jésus prie pendant 9 heures. Il y a des auteurs chrétiens qui pensent que ça peut être utile de dire aux chrétiens que Jésus priait pendant 9 heures et qu'on doit suivre son exemple. Ça peut nous décourager complètement. Alors j'aime mieux dire ce matin que Jésus trouvait aussi, on voit dans les évangiles, du temps pour s'isoler dans la prière, même pour des périodes plus courtes. Et on peut le voir dans l'évangile. Et ça peut nous encourager aussi. Et là aussi, et il est un exemple, et il est un exemple à notre portée. Alors je termine en parlant de Jésus comme notre Père. Il n'est pas seulement mon Père, dont je m'approche dans le culte personnel, mais il est aussi notre Père à tous, et donc nous pouvons prier ensemble. Jésus nous fait dire notre Père. La prière, même quand on est tout seul et s'approche de lui, on ne dit pas mon Père, on dit notre Père. Nos frères et sœurs ne sont jamais très très loin. La prière nous rend conscients de la communion fraternelle. Et donc s'approcher de Dieu, c'est pas se séparer des autres. S'approcher de Dieu, c'est aussi quelque part garder les autres à l'esprit, renforcer notre lien avec les autres. Notre Père réveille en nous le sens de la famille de Dieu. Et il n'y a rien de plus important pour Dieu, quelque part, que la famille. Il nous a créés pour faire partie d'une famille, pour renforcer les liens avec la famille, etc. Donc, si nous sommes tous enfants de Dieu, alors nous sommes frères et sœurs. Et on découvre ça en devenant chrétien. Et on a besoin de le redécouvrir tout au long de la vie chrétienne. Je ne choisis pas mes frères et sœurs. Mais eux, comme moi, nous avons été choisis par Dieu. Et d'une certaine façon, eux comme moi, avons choisi Dieu comme Père. Et notre relation personnelle avec Dieu détermine notre relation avec nos frères et sœurs. Et si nous voulons développer notre communion fraternelle, nous devons développer ensemble notre communion avec notre Père. L'Église n'est pas tant un lieu où on peut dire « je prie à cet endroit ». L'Église est avant tout un lieu où elle est avant tout une communauté de prière. Je prie avec des frères et sœurs. Jésus le rend très concret en Matthieu 18, hein, je le rappelle pour mémoire, 19-20. J'ajoute que si deux ou trois se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, hein, c'est le même contexte, il les exaucera. Car là où deux sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors la bonne question qu'on peut se poser, c'est vous priez avec qui ? C'est bien hein, de prier, on l'a dit, seul, devant Dieu, mais vous priez aussi avec qui ? Est-ce que vous priez en couple ? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez un trio de prières pour ceux qui ne sont pas en couple ? Voilà, on sera plus fort à deux ou à trois. Voilà ce que nous dit toute la Bible. Ecclésiaste 4:12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corne à trois fils n'est pas facilement rompue, ne se rompt pas facilement, dit l'ancienne version. Avons-nous besoin donc de changer nos habitudes dans ce domaine ? Quand le ferons-nous ? Est-il temps de prendre la communion fraternelle au sérieux ? Il est temps de rendre cette notion de père à notre vie communautaire et d'en saisir tout son sens. Et il est temps de ne pas exclure l'Église quand nous fermons la porte pour prier. Alors concrètement, je termine, bien sûr, dire père et notre père, c'est quand on s'approche de Dieu, c'est d'emblée reconnaître qu'on n'est pas seul. C'est se placer au milieu de tout un peuple. Voilà comment on peut rebondir sur ces mots. On peut dire, je m'approche de toi, tu es notre Père. Seigneur, je ne suis pas seul. Père, je ne suis pas seul. Je viens devant toi avec mes frères et sœurs de l'Église. J'ai en tête tous ceux... ou tous les frères et sœurs d'autres églises où je suis passé avant. Moi, je pense à la Bretagne, je pense à la Picardie, etc. On peut dire aussi, je pense aux chrétiens persécutés, Seigneur, Père, de l'Afrique du Nord, de la Corée du Nord, du Moyen-Orient. Je pense à mes frères et sœurs dans d'autres églises. Seigneur, merci parce que je ne suis pas seul. Et dire notre Père, c'est mettre l'accent, on l'a dit, tout de suite sur son amour. C'est venir au-devant de lui, non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on a confiance. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et cette prière, finalement, c'est dire, Père, tu m'aimes, Père. Tu fixes les règles, Père. Tu prends soin de moi, Père. Tu prends soin de nous aussi. Abba, Père, ton esprit me l'atteste, m'en donne l'assurance. Tu es Père, tu es le Père des Lumières, tu es le Père de tout don parfait. Tu es aux cieux, tu es sur terre avec moi, tu es mon Père, tu es notre Père. Amen.